Il est 18h et vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
Amplifier, accélérer, simplifier, promesse de l'exécutif face aux accusations de lenteur de la campagne vaccinale.
À la veille d'un nouveau conseil de défense sanitaire et avant une prise de parole attendue du Premier ministre jeudi.
On verra qui sera concerné par ces vaccinations alors que la plupart de nos voisins européens durcissent les mesures.
L'Angleterre est à nouveau sous cloche, au moins jusqu'au mois de mars, et l'Allemagne est sur le point, elle aussi, de renforcer les restrictions. On sera en direct de Berlin.
Et on s'interrogera, peut-on éviter un reconfinement à l'anglaise ? Le politologue Olivier Duhamel, visé par une enquête ouverte pour viol et agression sexuelle après les révélations de sa belle-fille. Elle l'accuse d'avoir abusé de son frère jumeau quand ils étaient enfants.
C'est un événement, une première pour un géant américain. Un syndicat vient d'être créé chez Google.
La bourse de Paris a terminé en recul de 0,44% ce soir à 5564 points.
Et puis la tendance météo avec non pas du recul mais du gris et du froid au programme demain, ma chère Anissa.
Oui Julien, l'hiver se poursuit demain avec un ciel très couvert sur l'ensemble du pays. Moins de neige et des températures toujours aussi froides le matin. Bonne nouvelle, le soleil revient généreusement dans le sud. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Olivier Véran, Jean Castex, l'exécutif monte au créneau crescendo pour acter l'accélération de la campagne vaccinale.
Oui, face aux reproches sur la lenteur de ces vaccinations, le Premier ministre dénonce des polémiques stériles.
Et Mathieu Charrier, cette fois l'exécutif donne des garanties, ça y est, on accélère.
Oui, avec une stratégie en trois axes, hein, développée par Olivier Véran, amplifier, accélérer, simplifier. Amplifier en ouvrant dès aujourd'hui la vaccination aux pompiers et aides à domicile de plus de 50 ans, qui rejoignent donc les soignants et les personnes âgées en EHPAD. À la fin du mois, ce sont les plus de 75 ans à domicile qui pourront accéder à la vaccination. Enfin, dans les prochains jours, le gouvernement veut ouvrir un fichier accessible en ligne où les Français qui le souhaitent, quel que soit leur profil, pourraient s'inscrire et prendre rendez-vous pour une vaccination. Ensuite, deuxième axe de cette nouvelle stratégie, accélérer. D'abord en demandant aux EHPAD de vacciner plus tôt quand ils sont prêts, puis en ouvrant des centres de vaccination dans les hôpitaux partout en France. 100 d'ici demain après-midi, 300 la semaine prochaine, 5 à 600 centres d'ici la fin du mois. Enfin, troisième axe, simplifier. Les infirmières et autres professionnels de santé pourront notamment vacciner sans la présence d'un médecin. C'était obligatoire jusqu'à aujourd'hui. Un médecin devra simplement superviser cette vaccination.
Alors restez avec nous Mathieu Charrier. On va revenir vers vous dans un instant, mais on va d'abord aller en Allemagne. Car là-bas aussi, le gouvernement subit les critiques sur sa stratégie vaccinale, jugée trop lente et trop dépendante de l'Europe. Pourtant, 266 000 personnes ont déjà reçu une première injection. Hélène Kohl, on vous retrouve en direct. Vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Berlin. Alors, il y a une grande conférence hein, cet après-midi entre Angela Merkel et les représentants des Länder. Alors que les magasins et les écoles sont fermés, on s'attend à une prolongation, Hélène, de ces mesures. Hein.
Oui, cette réunion se poursuit depuis bientôt plus de 4 heures. Visiblement, les discussions achoppent sur la question des écoles. Les établissements scolaires sont fermés depuis le 16 décembre. Il n'y a pas eu de rentrée hier. Les enfants reprendront-ils lundi prochain comme prévu ou bien pas du tout pour ce mois de janvier? C'est ce qui est en négociation actuellement. Sur la table aussi pour la toute première fois de l'épidémie, la question d'une limitation de la liberté de circulation, interdit d'aller plus loin que 15 km de son lieu de résidence si l'incidence dans l'arrondissement dépasse les 200 cas pour 100 000 habitants. En revanche, là où il n'y a pas de discussion et les choses sont assez claires, ce sont les commerces en essentiel qui resteront fermés dans les prochaines semaines. Même chose pour les restaurants, les bars, les musées, les théâtres, etc. C'est donc un nouveau tour de vis qui est en vue, mais la situation sanitaire ne laisse pas d'autre choix. Avec plus de 16 800 décès en décembre, il y a eu plus de morts que pendant tout le reste de l'année 2020 ici, avec encore plus de 1000 décès hier. Alors certes, la courbe des contaminations a fléchi un petit peu ces derniers jours, mais il est encore trop tôt pour connaître l'impact des vacances de Noël, des réunions familiales et surtout, il y a beaucoup d'incertitudes autour de la mutation du virus en Grande-Bretagne et c'est ce qui pousse la chancelière à être très très prudente ce soir.
Merci Hélène Kohl, correspondante d'Europe 1 à Berlin.
Depuis ce matin, l'Angleterre est-elle confinée pour la troisième fois depuis le début de cette pandémie, confinement au moins jusqu'au mois de mars.
On vous retrouve Mathieu Charrier, en entendant ce qu'il se passe ailleurs, c'est vrai qu'on s'interroge.
Oui, la Grande-Bretagne qui a vacciné avant nous et en masse et qui reconfine. L'Allemagne, on vient de l'entendre présenter au début comme un exemple et qui ne s'en sort pas non plus. Le Danemark en semi-confinement qui durcit également ses restrictions face à la multiplication des cas liés à la souche mutante britannique.
Alors, question Mathieu, est-ce qu'on va pouvoir, nous, Français, échapper à un troisième confinement?
Difficile de répondre et de savoir ce qui va se passer dans les prochaines semaines, mais à date, notre courbe des nouvelles contaminations reste quasi stable, en très légère hausse. Si on se compare uniquement à l'Angleterre, par exemple, nous avons 3 fois moins de nouveaux cas quotidiens. Et ces chiffres, ils prennent déjà en compte les rassemblements et les risques liés aux fêtes de Noël. Et ce soir ou demain, ils vont commencer à intégrer les réveillons de la Saint-Sylvestre. C'est là qu'on saura l'effet réel des rassemblements de fin d'année. Mais encore une fois, à l'heure où je vous parle, aucun reconfinement n'est envisagé par le gouvernement, ni même recommandé par les épidémiologistes. Je le répète, à l'heure où je vous parle, car on a vu avec ce virus que les contaminations peuvent parfois s'emballer en quelques jours.
Merci Mathieu Jarrier, chef du service Société d'Europe 1. Et concernant la réouverture des restaurants le 20 janvier, elle est de plus en plus compromise. Une réunion s'est tenue cet après-midi. Le Premier ministre doit prendre la parole jeudi et sans doute annoncer de mauvaises nouvelles.
Oui, on y reviendra dans le journal de 19h et on en parlera avec nos invités, avec le chef Etchebest, notamment dans le débat du Club des idées à partir de 19h20.
Premier déplacement de l'année pour Emmanuel Macron, le premier aussi depuis qu'il a été malade du Covid. Le chef de l'État s'est rendu à la caisse d'allocation familiale de Tours où il a rencontré des familles qui bénéficient du nouveau service public du versement des pensions alimentaires. C'est une réforme qui avait été initiée après le mouvement des Gilets jaunes et le grand débat de 2019.
Oui, une réforme importante avec un objectif, réduire drastiquement le nombre de pensions alimentaires mal payées ou impayées, surtout à des mères célibataires, un fléau qui touche 350 familles monoparentales tous les ans, soit un tiers des bénéficiaires. 18h06, une enquête ouverte pour viol et agression sexuelle. Après la publication, on en parlait hier, d'extraits d'un livre mettant en cause le politologue et ancien député européen Olivier Duhamel.
Il est soupçonné d'avoir agressé son beau-fils, alors âgé de 13 ans. Chloé Triomphe, les faits remontent à la fin des années 80.
Oui, des faits qui auraient été commis alors que la victime n'avait que 13 ans et qui ont déjà conduit la justice à ouvrir une première fois une enquête. C'était en 2011. Le garçon était majeur depuis déjà longtemps. Il a été entendu par les enquêteurs mais n'avait pas déposé plainte. Et Olivier Duhamel n'avait pas non plus été interrogé. La justice avait donc classé sans suite. Aujourd'hui donc, nouvelle enquête sur la base des révélations faites dans le livre de la sœur jumelle de la victime. Pour la justice, plusieurs questions vont donc se poser. Y a-t-il d'autres victimes ou une seule victime ? Pour la victime connue, les faits sont-ils les seuls ? S'il y a d'autres victimes, quelle serait la nature des faits ? Et dans chacun des cas, les faits sont-ils prescrit. C'est du cas par cas, en fonction de la nature des faits, en fonction de l'âge de la victime, sachant que le délai de prescription pour un viol est passé de 10 ans après la majorité de la victime à 30 ans depuis 2018.
Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Avec la suite du journal à 18h09, Isabelle Millet, un syndicat donc au sein d'une entreprise de la Silicon Valley, c'est une vraie révolution.
Oui, et ce syndicat, il vient de voir le jour dans la maison mère du géant américain Google. Bonsoir Xavier Von.
Bonsoir.
Alors c'est un symbole, ce syndicat, ce sera l'un des tout premiers au sein d'un des fleurons de la tech.
Oui, c'est vrai, jusqu'à hier, si vous tapiez Google syndicat dans le moteur de recherche, il n'y avait rien ou presque. Désormais, vous avez une flopée d'articles de presse, dont cette tribune dans le New York Times, signée par les deux fondateurs de ce syndicat, deux ingénieurs informatiques. Le slogan de notre entreprise, c'était « Ne pas être l'artisan du mal », écrivent-ils. En unissant les travailleurs, nous voulons suivre cette devise dont leur entreprise s'est éloignée selon eux. Et ils listent leurs reproches. Nos patrons collaborent avec des régimes répressifs à travers le monde. Ils développent une intelligence artificielle à des fins militaires, font des profits grâce aux publicités de groupes racistes. Et la goutte d'eau, ça a été le licenciement d'une chercheuse noire travaillant sur des questions d'éthique. On a beau être dans la nouvelle économie, disent-ils en somme, il y a quand même de la discrimination, du harcèlement et des injustices sociales. Alors, ils sont qu'une poignée pour l'instant, quelques centaines sur les 250 000 personnes qu'emploie Google. Mais c'est un signe que l'activisme a gagné une Silicon Valley dans la tourmente, elle qui prend une place grandissante dans notre vie quotidienne, surtout confinée.
Ben comme quoi, tout est possible.
Merci Xavier. Xavier. De retour de New York après plus de 4 ans, passé comme correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Welcome back.
Thank you.
Les États-Unis où tous les yeux sont tournés vers l'État de Géorgie où se déroulent deux élections sénatoriales capitales. L'enjeu, c'est l'avenir du Sénat américain et du futur mandat donc de Joe Biden. Si les démocrates remportent les deux élections, alors ils auront la majorité de cette chambre dominée aujourd'hui par les républicains.
C'était sa toute première conférence, la présentation à la presse de Mauricio Pochettino, qui entraînera donc demain soir son nouveau costume d'entraîneur du PSG.
Oui, il paraît qu'il jouera à Saint-Etienne pour la reprise de la Ligue 1. L'entraîneur argentin succède donc à Thomas Tuchel. Il n'aura eu que 3 jours pour préparer cette rencontre et 3 jours aussi pour se familiariser avec le français, Julien Thomas.
Oui, alors on ne va pas se mentir, il y a encore du boulot. Mais pour nous aussi d'ailleurs, comment prononce-t-on son nom ? Eh bien, il y a deux façons.
Como italiano que soy, Pochettino. Pero en Argentina, Pochettino.
Voilà, c'est comme vous le sentez.
Mais je pensais
Pochettino,
que j'avais encore dit une bêtise.
Non, vous étiez bien.
Ah bon,
vous étiez bien.
D'accord.
En tout cas, cela fait plus de 17 ans que l'Argentin a quitté la France, mais son amour pour le Paris Saint-Germain est resté intact. L'homme de 48 ans est ravi de renouer le fil de son histoire avec le club de la capitale.
Realmente... Papa Noël.
Franchement, le Papa Noël m'a donné un super cadeau de Noël en me donnant la possibilité d'intégrer ce club que je connais bien depuis plus de 20 ans. Pour mon staff et moi, ça a été incroyable. Un rêve d'avoir joué dans ce club et de pouvoir revenir dans cette maison.
à esta casa.
Alors ce point presse a été long, très long, presque une heure. L'Argentin a déjà bien usé de la langue de bois sur les sujets les plus sensibles, comme le mercato par exemple. Il a évoqué les deux stars, Neymar, Mbappé, sans pour autant les mettre sur un piédestal. Il a fait de la Ligue des Champions un objectif majeur du club. Il s'est aussi étonné que la composition d'équipe soit déjà dans la presse. Bref, Mauricio Pochettino a déjà tous les codes du nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain. Ne lui manque plus que le match. Ce sera demain à 21h contre Saint-Etienne.
Voilà, ce sera un beau cadeau de Noël.
Parce qu'il y a des entraîneurs qui ne font pas de la langue de bois, non?
Ah, il y en a, ça existe.
Ah oui. Giroud, par exemple, c'est vrai.
Oui,
oui, Giroud.
En tout cas, Saint-Etienne-PSG, c'est demain donc les débuts de Pochettino, c'est la reprise du championnat, les débuts également de Raymond Domenech à Rennes, derby breton, Nantes-Rennes, et puis on suivra Lyon qui reçoit Lens, Marseille-Montpellier et Lille-Angers.
Merci Isabelle, on vous retrouve à 18h30 pour le rappel des titres et à 19h pour le journal. La météo, Anissa qui nous a rejoint et qui nous annonce un temps plus sec et toujours couvert demain.
Oui, c'est dans le nord-est, Julien, sur le bassin parisien, l'Auvergne et la région Rhône-Alpes que le temps sera le plus couvert demain, avec quelques petites chutes de neige, mais rien de très impressionnant. Dans le nord-ouest, le temps reste instable comme aujourd'hui le long des côtes de la Manche. Sur le Cotentin et la Bretagne, le vent se calme, ça c'est la bonne nouvelle du jour. En Corse, tout au long de la journée, il pleut demain, des averses qui deviendront orageuses, notamment sur le sud-ouest de la Corse. Et puis sur la moitié sud, là c'est quand même la bonne nouvelle du jour. Le temps est plus sec après la dissipation des brouillards dans le sud-ouest et le soleil va s'imposer assez généreusement sur toute la façade atlantique et le bassin méditerranéen. Mais très froid, vous avez raison. Côté température, nous avons toujours des valeurs 4 à 5 degrés en dessous des normales de saison, avec moins 8 à Embrun, moins 7 à Mende, moins 5 à Aurillac, moins 3 à Clermont-Ferrand, moins 2 à Nîmes, moins 1 à Nantes, 0 pour Marseille et Lyon, 2 degrés à Paris et 4 pour Cherbourg. Au meilleur de la journée, c'est stationnaire, on aura les mêmes températures qu'aujourd'hui, avec moins 1 à 12 degrés tout au long de la journée, moins 1 à Aurillac, 5 à Paris et 12 pour Bastia.
C'est exceptionnel, Anissa. J'allais dire, à Bastia, il fait plus de 10, non? Et vous me dites 12,
ben 12,
voilà,
ouais,
formidable, tout est normal.
Vous commencez à devenir un pro de la météo. Hein.
Avec vous, c'est facile. Merci Anissa, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Europe 1, écoutez le monde changer.